enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Si t'as la personne à côté de vous, t'as pas besoin d'être bon Scrabble pour comprendre le message, c'est ça? Ce matin, une annonce rapide, on m'a avisé que juste avant le début de la première réunion, il y a une caméra qui s'est éteinte. Alors, on est moins efficace que d'habitude au niveau des caméras. On va réparer ça pour la semaine prochaine, caméra qui s'est éteinte comme ça au début de la réunion. Mais combien sont confiants? La caméra s'est éteinte, mais le pasteur ne s'éteindra pas ce matin. On va y aller. Et la lumière de Dieu va briller fort dans ces lieux. Ce matin, nous voulons vous souhaiter la bienvenue à vous, à cette deuxième réunion ici à l'Église Nouvelle Vie. Mais alors qu'on va être plusieurs milliers à être ici ce matin, nous sommes de plus en plus conscients et de plus en plus saisis d'un sens de responsabilité face aux centaines de milliers. Maintenant, nous estimons à près de 200 000 personnes, de manière conservatrice, 200 000 personnes qui téléchargent et écoutent les messages par Internet sur le site de l'Église Nouvelle Vie et différents sites qui aussi diffusent ces messages, mais aussi à travers les différentes émissions de radio et stations de radio, à travers la francophonie qui diffuse ces messages. Et j'ai reçu un appel courriel aussi il y a quelques semaines qui m'a beaucoup touché. Et en même temps, quel sens de dépendance devant Dieu. Nous sommes ici, nous servons le Seigneur de tous nos cœurs, mais là, de voir comment le Seigneur ouvre les portes qu'aucun homme ne peut fermer est extrêmement touchant et c'est un sens de responsabilité. Cet organisme suit de très près tout ce qui prend place au niveau des médias, au niveau de la télévision chrétienne et au niveau de la radio chrétienne et au niveau aussi de l'Internet chrétien à travers le monde entier dans différentes langues. Ils nous ont contacter pour prendre rendez-vous et développer des choses ensemble, mais aussi pour nous laisser savoir que leur estimation, c'est que il y a que l'Église Nouvelle Vie est probablement l'Église la plus écoutée en ce moment sur Internet, dans la francophonie, sur la planète en français. Et nous recevons depuis plusieurs mois, de plus en plus maintenant, tous les messages en entier sont sur Internet immédiatement dans les jours qui suivent. Et nous nous préparons pour l'automne, parce que dès l'automne, ça va être en vidéo. Il va y avoir, les gens vont pouvoir, vos amis, tout le monde que vous connaissez va pouvoir regarder les réunions directement, immédiatement dans les jours qui suivent par Internet. Et les lettres que nous recevons sont tellement touchantes. Les gens écoutent les messages et parlent des messages comme si c'était, en anglais on dit leur lifeline, comme si c'était leur bouée de sauvetage, comme s'ils étaient nourris. Il y a un message de cette semaine et le message de la semaine prochaine. Et voici ce que le message a fait pour moi. Alors, j'ose vous demander ce matin, si souvent on a une certaine pudeur à cet égard, mais je sais déjà que vous priez. Mais ne venez pas, je veux semer dans vos cœurs que la maturité chrétienne et le cœur pour la moisson, ce n'est jamais de simplement venir à l'Église en disant, bon, on va voir si le pasteur va avoir un message pour moi ce matin, je vais voir s'il va recevoir de la part de Dieu, mais que vous puissiez venir et la semaine également avoir dans vos vies de prière cette pensée de dire, je viens à l'Église et je prie pour le dimanche, je prie que Dieu agisse, je prie que Dieu touche, je prie également pour, j'ose vous demander ceci, l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, elle dit, priez pour moi. Alors ce matin, j'ose vous demander de prier pour moi, pour pasteur Denis, pour pasteur Marc, tous les pasteurs qui prêchent ici à l'Église Nouvelle Vie, qu'à chaque semaine, il y a non seulement les milliers qui viennent ici, mais il y a les dizaines de milliers qui ont besoin d'une parole de la part de Dieu. Et combien croient que si Dieu, que là où il y a vision, il va y avoir la provision, que Dieu a une onction pour chaque personne qui va entendre ces messages. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ensemble, juste pour le privilège qu'on a de vivre ça ensemble? Nous débutons ce matin une série sur les noms, à la découverte des noms de Dieu. Et la vision de cette série, c'est que chaque croyant, chaque personne ici dans ce lieu, chaque chrétien de l'Église, mais aussi chaque personne qui va entendre ce message, puisse grandir dans une révélation de qui Dieu est. Parce qu'il m'a connu, dit la parole de Dieu, on va lire dans le psaume 91 dans un instant, parce qu'il a connu mon nom, je le guérirai et je le délivrerai. Et le peuple périt par manque de connaissance d'un côté, mais ceux qui connaissent Dieu feront des exploits de l'autre côté. Et à toutes les époques, nous avons eu besoin de connaître Dieu, de connaître son nom. Mais je crois qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles en ce moment, dans l'époque dans laquelle nous vivons, lorsque je reviens de vacances et que je reçois, après une semaine de vacances avec ma famille, et que je reçois, et je me mets à lire tout le courrier et l'ampleur des besoins et les gens et les familles et les vies et la maladie et les épreuves et les choses que les gens traversent, nous avons besoin de cette révélation de ce que sont les noms de Dieu pour nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une révélation des Écritures que Dieu choisit toujours et aime et prend plaisir à révéler une nouvelle facette de qui il est à travers nos pires épreuves. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 124, notre aide et notre secours, 124:8, notre aide et notre secours est dans le nom du Seigneur. Qu'il y a, vous savez, dans l'expérience humaine, vous avez tous vécu que dans l'expérience humaine, dans nos expériences humaines, c'est souvent dans les moments d'épreuve, les moments de difficulté qu'on découvre qui sont nos vrais amis. Combien peuvent dire c'est vrai? C'est souvent dans ces moments d'épreuve qu'on découvre, et aussi tout le monde ici qui a un peu vécu, peuvent vous dire que c'est souvent dans les moments à la guerre. C'est lorsque les balles commencent à siffler autour des oreilles dans les expériences de la vie. C'est lorsque ça va mal que tu découvres ce qu'il y a dans le cœur des personnes autour de toi. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y avait? C'est souvent dans ces moments-là que tu découvres, et certains d'entre vous avaient vécu des expériences de déception profondes, et des gens que tu croyais tellement de ton côté, tellement avec toi, et que lorsqu'une épreuve arrive, de voir toutes sortes de gens disparaître. Mais Dieu dit, dans les moments d'épreuve, tu vas voir qui je suis. Dans les moments d'épreuve, tu vas voir quel ami je suis. Dans les moments d'épreuve, je vais m'en servir pour te faire découvrir des nouvelles facettes de mon nom, de combien je suis fidèle, je suis bon, je suis ton ami, je te lâcherai jamais. Mais dans l'épreuve, Dieu révèle son nom. Quelqu'un devrait dire oui. Pourquoi s'attirer sur l'épreuve? Parce que nous ne pouvons pas, il dit ici, que nous devons invoquer son nom. Psaume 116, j'étais dans la douleur et les tourments. J'étais au plus bas, mais il m'a aidé lorsque j'ai invoqué le nom du Seigneur. Et pourquoi s'attirer? Parce que nous ne pouvons pas invoquer le Dieu que nous connaissons si peu. Il y a différents niveaux de connaissance, paliers. Non pas par désir de Dieu, par choix de Dieu. Dieu désire que chacun d'entre nous venions si proche de lui. Mais il y a plusieurs paliers dans les Écritures qui sont encore vivants aujourd'hui, qui sont encore présents aujourd'hui, manifestés, incarnés aujourd'hui dans la vie de plusieurs, différents niveaux de gens qui sont dans l'Église, mais qui connaissent Dieu à des niveaux bien différents. La Bible parle de gens qui sont dans l'Église, qui ont une apparence de piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Ils ne connaissent pas le véritable nom de Dieu. La parole de Dieu nous parle de personnes qui ont connu son nom et qui s'en sont éloignées. Sont éloignés de Dieu, sont éloignés de la connaissance de Dieu. La parole de Dieu nous parle de personnes qui connaissent le nom du Seigneur, mais elles demeurent dans le lait. Une analogie d'un bébé qui boit du lait, qui ne graduerait jamais à manger de nourriture solide. De chrétiens qui sont là, et comme pasteur, c'est quelque chose qui est troublant et déchirant. De voir des chrétiens qui sont dans l'Église depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et à chaque fois qu'une épreuve arrive, à chaque fois que quelque chose arrive, ils se comportent comme s'ils ne connaissaient pas Dieu du tout. Comme s'ils ne connaissaient pas sa fidélité, comme s'ils ne connaissaient pas sa parole, comme s'ils ne le connaissaient pas. Et il y a ce moment qui nous fait frémir spirituellement dans les Écritures, ce moment prophétique dans Matthieu, où Jésus dira même que ce jour de destinée qui nous renverse et qui nous fait trembler à la foi, où des gens qui connaissent Dieu, ce ne sont pas des inconvertis qui parlent ainsi, mais des gens qui connaissent Dieu, qui ont le langage de l'Église, qui se paraîtront devant lui et qui diront, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons prié, nous avons dit, Seigneur, mais ils étaient à ce point en superficialité et leur lèvres honorant et leur cœur loin de lui, que Jésus dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Le niveau de connaissance que vous aviez n'était pas, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. Et il y a, pourquoi cette série sur les noms de Dieu? Parce qu'il y a dans la maison du Seigneur, ici à Nouvelle Vie, il y a partout des gens qui aiment le Seigneur, qui aiment sa voix, qui ont un cœur pour Dieu. Pour prendre les mots d'Ésaïe 50:10, qui est parmi vous celui, il y a une question que Dieu pose ce matin et vous y répondrez, qui est parmi vous celui qui aime Dieu et qui désire obéir à sa voix. Est-ce que vous pouvez dire, Seigneur, sans arrogance, c'est moi, je t'aime et je veux t'obéir. Criez un amen si c'est vous ce matin. Qui est parmi vous celui qui aime Dieu et qui désire obéir à sa voix, mais qui marche dans les ténèbres et qui ne trouve pas la lumière? Chacun d'entre nous vivons des moments dans nos vies. Nous aimons Dieu. Je veux obéir à sa voix. Il y a des sphères de ma vie, il y a des décisions dans ma vie, il y a des situations dans ma vie. Il y a des épreuves que je traverse, il y a des choses dans mon passé, dans mon présent. J'aime Dieu, je veux obéir à sa voix, mais j'ai besoin de lumière. J'ai besoin d'une lumière, j'ai besoin d'une direction, j'ai besoin de connaître une facette de Dieu que j'ai pas vue auparavant, j'ai besoin de connaître qui il est, j'ai besoin de le découvrir, j'ai besoin de vivre quelque chose avec Dieu de frais, de vrai et de nouveau, qui est celui qui aime Dieu, qui veut obéir à sa voix, mais qui a besoin, qui ne trouve pas la lumière. Ésaïe 50, verset 10, qu'il apprenne à mettre sa confiance dans le nom de Dieu. Combien d'entre vous ce matin, et lorsque je dis combien d'entre vous, faites attention parce qu'il y en a déjà qui se mettent sur le pilote automatique pour dire « Amen » lorsque je dis ça, mais des fois, à cause de ça, on dit « Amen » au mauvais moment, on dit « Amen » à l'envers, qu'on voudrait… Combien d'entre vous avez déjà dit « Amen » puis tu voudrais leur tirer, tu voudrais te lever et dire « Non, excusez, je voudrais leur prendre celui-là ». Alors, je vous avertis à l'avance, pour pas que vous ayez à le faire ce matin. Combien d'entre vous, ce matin, vous en avez assez de Dieu? Vous savez tout ce que vous avez à savoir, vous êtes repu, vous êtes plein, vous connaissez tout et vous savez tout. Je ne crois pas qu'il y en a plusieurs, je crois plutôt qu'il y a une soif dans ce lieu de nouveaux chrétiens, mais aussi de chrétiens comme nous, de longue date, 10, 20, 30, 40 ans. Et nous disons, Seigneur, merci pour ce que nous avons connu hier, mais aujourd'hui, nous avons soif d'une nouvelle lumière, nous avons soif de connaître ton nom et que ceux qui ont cette soif disent amen dans ce lieu ce matin. Et applaudissent à l'avance, car heureux celui qui a faim et soif, il sera rassasié. Découvrir les noms de Dieu, c'est découvrir les dimensions de qui Dieu est, bien au-delà de le Dieu qui existe, où je sais que Dieu existe, le Dieu qui m'a sauvé, il est mon sauveur, bien au-delà de le Dieu qui m'a pardonné, le Dieu qui me sort du trouble lorsque je suis en difficulté, le Dieu que je veux qui me bénisse, le Dieu qui me reprend lorsque je fais des erreurs. Toutes ces dimensions-là sont belles, elles sont vraies, elles sont authentiques et elles sont précieuses. Mais Dieu veut nous amener plus loin avec lui. Il veut nous amener, c'était comme, nous allons traverser l'Ancien Testament, parce que ce qu'on va faire ensemble, vous allez voir dans la parole de Dieu que c'était la façon, ce n'est pas un discours théologique que je vais vous apporter seulement de théologie stérile, parce que la façon que Dieu fonctionnait, c'est qu'alors que son peuple vivait leur vie, nous on lit sur des pages, mais eux c'était leur vie. Alors dans l'Ancien Testament, qu'ils traversaient des situations, voici ce qui se passe, il y a un ennemi, il y a une menace, il y a une attaque, il y a une maladie, il y a une opposition, il y a une déception, il y a un déchirement, il y a une division, il y a un combat, il y a une montagne insurmontable, il y a des choses qui prennent place. Alors qu'ils traversaient les expériences de la vie et qu'ils criaient à Dieu. Dieu se manifestait à eux. Dieu faisait quelque chose. Dieu leur apprenait quelque chose. Dieu intervenait. Et alors que Dieu intervenait, ils bâtissaient un autel devant Dieu. Ils bâtissaient un petit monticule de mémoire, de souvenirs. Et ils disaient, ici, Dieu s'appelle. Ici, Dieu s'est révélé comme étant à travers l'expérience de leur vie. Différentes facettes de qui il est leur a été révélé. Il y a plusieurs différents noms de Dieu que nous allons regarder ensemble dans les prochaines semaines à partir des textes de l'Ancien Testament qui est écrit en hébreu, des descriptions, des mots, des noms de Dieu comme El Elyon qu'on va voir ce matin, qui veut dire le Très-Haut, le Tout-Puissant El Shaddai, Jéhovah Jireh, qui est le Dieu entièrement suffisant, le Seigneur qui voit et qui pourvoit, Jéhovah Rophi, le Seigneur qui guérit. Et alors que nous allons traverser chacun de ces noms de Dieu dans les prochaines semaines, nous allons les expérimenter pour nos vies d'aujourd'hui. Jéhovah Nissi, le Seigneur, notre bannière, celui qui nous couvre. Jéhovah Tsebatot, l'Éternel des armées, celui qui combat pour nous. Jéhovah Shalom, le Seigneur, notre paix. Tsikinou, le Seigneur, notre justice. Jéhovah Shama, le Seigneur est là. Laissez-moi dire quelque chose, clarifier quelque chose. On a beaucoup de nouveaux ici à l'Église Nouvelle Vie. Et à chaque fois qu'on utilise le mot, le nom Jéhovah, au Québec, tout le monde devient nerveux. Je l'ai vu là ce matin. Là. Comment ça, Jéhovah? C'est ça cette affaire-là, Jéhovah? D'associons ça à un mouvement, d'associons ça à une religion. Il faut que vous compreniez certaines choses bien, bien élémentaires. Dans le langage hébreu de l'Ancien Testament, il n'y avait même pas de voyelle. C'était J-H-V-H, si on peut prendre le langage écrit. Jéhovah, c'est simplement une traduction en français, c'est utilisé en anglais, dans d'autres langues, pour nous aider à avoir un mot. Ça veut tout simplement dire, ce que vous voyez J-H-V-H, ce que vous entendez Jéhovah, ça veut tout simplement dire Dieu, le Tout-Puissant, le Seigneur. Et vous avez besoin de simplement ouvrir votre cœur. Je suis conscient, moi, de cette peur-là, cette crainte-là, depuis des années. Depuis des années, j'ai été frappé par ça dans les débuts de mon ministère, dans les tout débuts, c'était même pas mon ministère. J'ai donné ma vie au Seigneur. Et à cette époque-là, dans les églises dans lesquelles nous étions, plus petites églises et tout ça, mais petites églises, puis mentalité aussi. Tu étais chrétien, nouveau chrétien, pour te mettre à l'ouvrage tout de suite. Et bien souvent, haut en zèle et bas en tout le reste. Et moi, j'étais sauvé depuis un an et demi, puis j'animais un groupe maison. J'étais à la tête d'un groupe maison, et le pasteur prêchait un message le dimanche, il nous donnait des notes, puis la semaine, je me retrouvais avec des gens, puis c'est souvent des inconvertis, tout ça, et j'étais très... Le professeur était étudiant lui-même. Et c'était super, je me repentais le lundi, je prêchais la repentance le mardi. Et cette fois-là, j'étais assis, puis Dieu s'en est servi de grande façon, parce que à travers une de ces maisons-là, où j'ai pris à peu près un an, à chaque semaine, dans une maison, il y a plein de gens qui ont accepté le Seigneur, qui sont encore au Seigneur aujourd'hui, toute une famille. Bégin et des amis, le fils a accepté le Seigneur qui avait mon âge, j'avais 17-18 ans, sa sœur, sa première sœur, sa deuxième sœur, sa maman, le papa, et tous les gens commençaient à accepter le Seigneur, des gens qui servent encore le Seigneur aujourd'hui, qui sont avec nous, et puis à un moment donné, on était dans nos petits groupes maison, et puis ils m'ont dit, la semaine prochaine, c'est excitant, notre grand-papa Gaspard s'en vient. Grand-papa Gaspard, et puis grand-papa Gaspard, depuis que toute la famille avait donné sa vie au Seigneur, il était très fâché. Il était choqué parce que lui, c'était un catholique, mais non pratiquant. Mais lui, il avait entendu, pour lui, si tu n'étais pas catholique, tu étais Jéhovah. Comprenez-vous, tu étais là-dedans. Alors, il avait peur de ça, il était tout énervé, puis il avait tout fait pour essayer de sortir de là, puis il n'était pas capable. Puis là, il a dit, là, je suis tanné, vous alliez à ça. Moi, y aller, moi, à votre affaire. Je vais aller le voir, moi, le Jéhovah. Puis il dit, ben non, grand-papa, c'est pas Jéhovah, voyons. C'est pas Jéhovah. Et puis on arrive, et là, il m'annonce ça. Vous savez comment on est lorsqu'on invite quelqu'un pour les premières fois, il y en a qui ont fait ça ici ce matin. Tu es assis là, tu es nerveux, tu veux que tout se passe bien, tu veux que les gens se comportent bien autour de vous, qu'ils soient gentils, tu veux que le pasteur ne prêche pas sur la dîme. Vous savez ce que je veux dire, tu sais? C'est encore pire dans une maison, tout le monde est là, on est tout en face, on est 7-8 seulement. Moi, j'étais là, 18 ans, j'ai mon étude, et je savais rien de toute l'affaire Jéhovah, tout ça, mais on dit après. Et le pasteur Sam avait prêché le dimanche d'avant sur Jéhovah. Découvrir qui est Jéhovah, puis c'est là-dessus qu'était mon étude. Première fois, alors Gaspard s'assoit devant moi, puis ça, on chantait des chansons avec une guitare, lui, je chantais pas, regardait tout le monde, et puis on s'assoit, puis moi, je suis tout confiant. Je dis, bon, mais maintenant, ce soir, j'aimerais vous partager mon sujet, mais vous savez, on est dans un groupe, là, c'est pas une réunion dans une église, alors je vous encourage à me dire ce que vous en pensez, on est ici pour échanger, je veux pas seulement parler, je veux vous entendre. Alors, je dis ça, et je dis, mon sujet ce soir, découvrez Jéhovah. Il se lève debout, oh, je le savais, c'est un Jéhovah, je le savais. À les semaines qui ont suivi, Gaspard a donné sa vie au Seigneur, sa femme a donné sa vie au Seigneur, c'est moi qui les a baptisés et toute la famille a suivi le Seigneur. Alors, j'aimerais vous donner un conseil ce matin. N'ayez pas peur d'apprendre qui est Jéhovah, mais faites attention à ses témoins. Il y en a entre vous, ça va être juste en vous en allant au dîner que vous allez crier. C'est ça. Mm-hmm. Ce matin, nous allons découvrir un nom de Dieu magnifique. Ce matin, dimanche matin, ce dimanche et dimanche prochain, nous allons découvrir ensemble dans le psaume 91, Dieu, mon refuge. Nous allons regarder ensemble à cette dimension de Dieu que certains d'entre nous ne connaissons pas, ou que connaissons bien peu ou pas, ou bien de façon bien insuffisante. Dieu dit, je veux être un refuge pour vous. Et ce matin, la semaine prochaine, nous allons regarder ensemble dans le psaume 91. Et j'aimerais que vous puissiez prendre dans votre Bible le psaume 91. Je ne parle pas aux gens qui sont ici pour la première fois. Ceux qui sont ici pour la première fois, on vous encourage à vous procurer une Bible, ça va être le meilleur achat que vous allez faire dans toute votre vie. Mais si vous êtes chrétien, vous devriez venir à chaque dimanche, même si les versets apparaissent à l'écran, venez avec votre Bible dans les mains. Vous n'oubliez pas de mettre vos souliers, vous n'oubliez pas de mettre vos pantalons, messieurs. Vous n'avez pas oublié, mesdames, de vous maquiller ce matin et dans la paix. Mais n'oubliez pas de prendre votre Bible, d'arriver à l'église avec votre Bible. Et dans la perspective pastorale, c'est plus important, c'est moins grave d'oublier de se maquiller que d'oublier sa Bible. Non, j'ai aucun amen féminin. Alors faites les deux, mais n'oubliez pas votre Bible. Psaume 91, nous allons découvrir, à la découverte des noms de Dieu, découvrir le refuge ensemble. Psaume 91, celui, quelques versets ensemble, versets 1 à 3. Celui qui habite à l'abri du Tout-Puissant ou du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Verset 5, s'il vous plaît. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent, verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Verset 14. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai contempler mon salut. Oui, j'aimerais vous proposer quatre principes extrêmement importants pour découvrir le refuge de Dieu ce matin et dimanche matin prochain. Nous allons regarder ensemble la première partie ce matin à ce que j'appelle la révélation et le cœur du refuge, le pourquoi nous avons besoin de ce refuge. La raison, et deuxième étape, la raison et le combat du refuge. Dans le prochain message, la semaine prochaine, la route et les conditions du refuge. Et si nous allons découvrir ce matin pourquoi nous avons besoin, la semaine prochaine, pourquoi nous avons besoin du refuge, il est extrêmement aussi important de comprendre comment se l'approprier. Pourquoi on a besoin d'un refuge? Qu'est-ce que ce refuge représente? Comment je peux trouver une paix, un lieu de paix, de consolation, de fortification, de renouvellement, mentalement, psychologiquement, spirituellement, dans ma propre vie, être un refuge? Pourquoi j'en ai besoin? Mais surtout, et c'est pourquoi la semaine prochaine et le dimanche suivant sont tellement importants, comment me l'approprier? Comment s'approprier ça? Comment ça devient une réalité? Comment ce qui est sur la page de la Bible devient une réalité dans ma vie à moi? Et comment je peux, moi, trouver le refuge? Pour moi-même, mais aussi comment je peux devenir un refuge pour les autres. Comment chaque mari ici peut devenir un refuge pour son épouse. Comment on peut devenir un refuge pour nos enfants. Comment je peux devenir un refuge pour les gens autour de moi. J'ai trouvé quelque chose en Dieu que je peux partager avec les gens autour de moi. Et alors, nous allons regarder à la route. C'est, dans le psaume 91, il y a une route extraordinaire vers le refuge de Dieu. Il y a les pièges de l'ennemi, mais il y a la route vers, on va regarder les deux, et la route vers le refuge. Et la condition, comment? Pourquoi y a-t-il tant de chrétiens qui connaissent le refuge, mais qui ne le vivent pas? Il y a des conditions dans le psaume 91 pour atteindre, pour s'emparer du refuge. Et manquez pas dimanche prochain, on va visionner ensemble un témoignage, ça dure 7 ou 8 minutes, on est en train de le traduire en français, extrêmement touchant témoignage de guérison et d'intervention de Dieu sur comment une famille, un garçon de 16 ans, et puis son petit frère de 13 ans, sa petite sœur de 9 ans, la famille ensemble avec leur papa, alors que leur maman s'est faite frapper par une voiture par un homme qui était saoul, un homme qui était ivre. Elle a été 8 mois dans le coma. Les médecins avaient abandonné tout espoir et la famille se réunissait autour du lit en chantant des louanges à Dieu. Et comment la dame est sortie du coma et comment ils ont trouvé un refuge en Dieu, que Dieu est intervenu et que maintenant, à travers cette épreuve, ils vont partout, à travers les États-Unis, témoignant de ce que Dieu a fait pour eux. Alors, manquez pas ce témoignage. C'est des gens que vous connaissez qui ont besoin d'une intervention divine, qui soient là dimanche matin prochain, parce que nous allons garder la route et les conditions du refuge et la richesse et les conquêtes du refuge. La révélation est le cœur du refuge. Dans le psaume, 91, il y a plusieurs différents noms de Dieu qui expriment et qui développent et qui manifestent et qui nous donnent des facettes magnifiques et brillantes du refuge du Seigneur. Le verset 1 et 2, il dit, « L'Éternel est mon refuge, il est une forteresse, il est mon Dieu en qui je me confie. » Le psaume 91 appelle le Seigneur le Très-Haut. Tu es l'Éternel, tu es le Très-Haut, tu es mon refuge, tu es le Tout-Puissant. À la diapo 11, nous voyons ces différents mots, différents noms de Dieu, et chacun d'entre eux vous révèle quelque chose d'important concernant le refuge qui est disponible pour vous dans le Seigneur. La première étape que nous voyons ensemble, c'est que le refuge de Dieu, par les noms du Seigneur qui sont là, le refuge de Dieu nous élève au-dessus de nos difficultés. Le Seigneur est appelé le Très-Haut. Le suprêmement haut, le très haut. La Bible n'enseigne pas, je suis tellement reconnaissant, que la Bible n'est pas utopique. Elle n'enseigne pas l'absence de difficultés. Dans le même psaume 91, il dit « Je serai là avec vous à travers vos épreuves ». Alors, il n'y a pas cette utopie chrétienne qu'il n'y aura pas de difficultés. Mais ce que la Bible enseigne, c'est que oui, les problèmes sont réels, les obstacles sont réels, les déceptions sont réelles, les maladies sont réelles, les catastrophes de la vie, les tragédies de la vie sont réelles. Mais l'Éternel, notre Seigneur, est le Très-Haut. Il est au-dessus, il est plus haut que tout cela, et que ceux qui sont dans la foi avec lui, marchent avec lui, apprennent à le connaître, vont découvrir que cette foi dans le Très-Haut me permet à moi aussi de m'élever au-dessus et de transcender les épreuves que je vais traverser. Il est le Très-Haut, et non seulement le Très-Haut, le refuge me permet d'être élevé. C'est pour ça que vous avez toutes sortes de témoignages qui touchent le monde, de gens qui vivent, des chrétiens qui vivent des épreuves, et que les gens qui ne connaissent pas Dieu sont autour et disent « Comment t'as fait? Comment tu faisais? Comment tu pouvais? Comment t'as pu continuer? Comment vous avez pu? » Et le témoignage chrétien, c'est que oui, je fais face à des épreuves. Mais le Très-Haut, mon refuge s'appelle l'Éternel, El Elyon, le Très-Haut. Il m'élève au-dessus, mais il est aussi El Shaddai, le Tout-Puissant, que le refuge me permet aussi de transcender mes limitations, mes faiblesses. Ce qui est impossible aux hommes devient possible par El Shaddai. Mon refuge est Tout-Puissant et il me communique de sa Toute-Puissance. Il est El Shaddai, Il est El Elyon, il est un très haut qui m'élève par sa puissance au-dessus. Mais il est aussi mon refuge, il est un refuge également qui me permet de transcender mes limitations humaines, mes capacités humaines, avec une puissance qui est infinie, qui est renouvelée et qui est infiniment appliquée à chaque situation de la vie. Pour les 3 000 personnes et plus qui vont passer à l'Église Nouvelle Vie aujourd'hui et cette semaine, il y a 3 000 défis différents, 3 000 épreuves, 3 000 besoins de la puissance de Dieu qui sont tellement différents. Et comme des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux dans les Actes des apôtres, il y a un refuge particulier que tu peux aller chercher à chaque jour où Dieu t'élève, Elyon, au-dessus de ce que tu vis. Ce n'est pas du déni, je fais face à ma situation, mais j'ai une grâce qui me permet de m'élever au-dessus et je reçois une puissance appliquée, personnelle, manifestée. Mon El Shaddai me rend capable de vaincre ce qui me vainquait auparavant. Et ceux qui l'ont vécu, voulez-vous dire amen pour encourager ceux qui ont besoin de l'entendre? Et il est un refuge. Il est mon refuge, il est ma forteresse. C'est un terme qu'eux connaissaient très bien. Le mot grec, mahasé, parle de refuge, de lieu de protection, de retraite, forteresse, un endroit où je suis protégé de mes ennemis, un endroit de paix, un endroit de repos, un endroit de rédemption et un lieu d'espoir retrouvé. Le refuge que Dieu offre est un refuge qui m'élève au-dessus des circonstances. C'est un refuge avec une puissance qui me permet de transcender mes faiblesses humaines. Mais c'est aussi un refuge qui est ici pour aujourd'hui et non seulement pour le ciel après. Dans le psaume 91, il y a une description, une mention qui est extrêmement importante. Le psalmiste nous dit, il y a un refuge pour vous sur cette terre, mais il nous dit aussi au verset 15, que Dieu donne à chaque croyant. L'espoir du croyant, c'est que nous avons un refuge éternel avec Dieu. Verset 15, il dit, « Je le délivrerai, je le glorifierai, je lui ferai connaître mon salut. » Et ça ne parle pas seulement d'être délivré de mes captivités sur cette terre. Et ça parle, c'est un portrait éternel que si vous connaissez le Seigneur aujourd'hui, vous allez marcher de délivrance en délivrance. Mais il y a un jour qui vient, toute délivrance sur cette terre est partielle. Mais il y a un jour qui vient où j'entrerai dans le salut de Dieu. Lorsque ça dit que je le glorifierai, ça ne parle pas d'une place de glorification sur cette terre nécessairement, mais il parle littéralement, l'apôtre Paul reprend le même thème, il parle littéralement, il dit à chaque chrétien, l'enveloppe de ton corps, elle est là, et elle va te servir sur cette terre, mais il va venir un moment où, absent du corps, tu vas être présent avec le Seigneur, et en ce jour-là, tu vas trouver le refuge ultime. En ce jour-là, tu vas trouver une paix que plus personne ne pourra t'enlever, une joie que tu ne pourras plus perdre, un endroit où il n'y aura plus de mensonges, où il n'y aura plus de déceptions, où il n'y aura plus de tentations, où il n'y aura plus de chutes, où il n'y aura plus de découragement, d'attaques, de mépris, où il n'y aura plus de maladies. Je m'attendais à ce que vous disiez « Amen » à un moment ou à un autre. Un endroit de refuge où dans ce lieu-là, plus rien. La porte est fermée derrière moi, il n'y a plus rien qui peut me séparer de mon Dieu, je suis dans le refuge éternel avec le Seigneur. Il y en a 8 qui sont heureux de s'en aller au ciel ce matin. J'aimerais vous dire que quel que soit votre âge, on a des gens de 90 ans et plus ici, puis il y en a qui sont tout jeunes, quel que soit votre âge, personne d'entre nous ne savons combien de minutes, combien de jours, combien d'heures nous reste à vivre. Et c'est l'assurance d'un chrétien. J'aimerais dire ceci aux dernières nouvelles avec la science moderne. Aux dernières nouvelles, dernières statistiques, les statistiques de personnes dont la vie se terminait par la mort sont à peu près à 100% en ce moment. Mais la parole de Dieu dit qu'il y a pour chaque croyant. Hier, il y a une dame, une fille de notre église, sa maman, qui est chrétienne. Il y a eu le funérail hier qui a pris place, une dame fervente, une dame de foi, qui après une longue maladie s'est en allée être avec Dieu. Et ce que la parole de Dieu promet dans le psaume 81, c'est que dans ce moment-là, tu entres dans le refuge de tous les refuges. Il n'y a pas un milliardaire qui peut se l'acheter. Il n'y a pas une religion qui peut te le donner. C'est un refuge avec Dieu. À ce moment-là, les larmes sont effacées et ce que tu as ne peut plus jamais être perdu. Il me délivre. Il me glorifiera, il me fera voir son salut. Et quel que soit votre âge, j'exige un amen et une ovation ce matin. Ayant dit cela, c'est extrêmement important que vous compreniez la pensée. Il y a une clé ici extrêmement importante, parce qu'à travers l'histoire de l'Église, il y a, je crois, dans le témoignage de l'Église moderne, un manque de révélation sur le ciel. Il y a beaucoup de chrétiens modernes. C'est notre faute probablement à nous, communicateurs de la parole de Dieu, que nous n'avons pas assez prêché la beauté, la grandeur et l'importance du ciel et la richesse du ciel. Mais il y a dans l'histoire de l'Église aussi, il y a ces tendances, ou historiquement, pour les chrétiens de penser et de vivre comme si le seul refuge que nous avons, c'est au ciel. Et qu'il va y avoir une dichotomie entre les deux. Qu'il va y avoir que ça, c'est le ciel, mais que la vie sur la terre, les fausses religions de ce monde et même les grands courants religieux de ce monde ont souvent une dichotomie baroque entre ce que le ciel va être et ce que la réalité ici sur cette terre est. Et l'intention de Dieu, le refuge du Seigneur et le désir et la plénitude de la volonté de Dieu, c'est que nous commencions de jour en jour à vivre ce ciel sur la terre. Le refuge, tu le vis à chaque jour sur terre. En préparation, tu le vivras éternellement avec Dieu. Oh, vous devriez dire amen ce matin. Dieu dit, ce n'est pas ma volonté, écoutez-moi, et ce n'est pas ma gloire que tu lises dans la Bible et que tu espères dans un refuge de paix, mais que tu vives une vie de tourment toute la vie sur la terre. Ce n'est pas ma gloire que un jour, lorsque tu vas mourir, tu vas avoir un ciel de libération, mais que tu vas vivre en captivité toute ta vie sur la terre. Un jour, tu vas avoir un ciel dans la présence de Dieu, mais sur la terre, tu vas vivre une vie sans prière, sans communion, sans louange, loin de lui. Un jour, tu vas être dans une vie, dans le ciel, où tu vas être détaché totalement de tout ce qui est matériel parce que tu vas vivre dans les valeurs éternelles. Mais sur la terre, tu continueras à vivre une vie égocentrique, égoïste et matérialiste qui t'enlise. Un jour, tu vas être dans le ciel, dans le lieu du pardon parfait où il n'y a ni amertume, ni blessure. Mais sur la terre, tu seras un chrétien qui garde sa rancune le plus longtemps possible. La parole de Dieu dit, voici mon refuge. Le psaume 91 utilise un mot qui était, et utilise toute une pensée. Je veux te faire voir mon salut. Je veux te faire connaître. Puis il donne plein d'analogies de la vie quotidienne. On va les regarder dans les prochaines semaines. Il parle d'un refuge que tu vas vivre aujourd'hui. Dieu dit, le ciel est un lieu de délivrance. Le refuge est un refuge de délivrance. Mais je veux te faire connaître ta délivrance aujourd'hui. Le refuge est un refuge de paix. Mais je veux que tu trouves le refuge dans tes conflits aujourd'hui. Le refuge est un refuge de joie. Mais je veux que tu trouve la joie dans ta vie aujourd'hui. Et à travers tout l'ensemble de la parole de Dieu, il y a cette dimension que je le dirais de cette façon, que la destinée, le royaume de Dieu commence aujourd'hui sur cette terre. Il y a une laideur. C'est pourquoi il y a une laideur dans cette dichotomie baroque entre l'espoir du ciel et l'expérience au quotidien de plusieurs religions de ce monde. C'est pourquoi je crois qu'il n'y a aucun autre chemin entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi je crois que le christianisme est unique et magnifique et sans égal et incomparable parce qu'il ne promet pas seulement un ciel, un refuge éternel. Il dit le refuge commence à l'instant où tu te tournes vers moi et je vais faire entrer le refuge dans ta vie jusqu'à ce que tu entres dans mon refuge. Regardez toutes les grandes religions du monde. Si vous regardez l'hindouisme, il y a toute une dichotomie hallucinante entre l'au-delà. La pensée de la réincarnation, la pensée du karma, c'est cette pensée qu'à cause de mes vies passées, je peux avoir des vies passées qui font en sorte que je peux vivre complètement d'une manière totalement différente. La pensée du karma, c'est que ce qui m'arrive aujourd'hui, je le mérite. C'est à cause de mes vies passées. Alors, vous pouvez aller aux Indes aujourd'hui, on a des amis qui sont aux Indes en ce moment, avec lesquels on correspond par email, et qui nous disent comment c'est réel. Tu parles avec les gens et c'est ainsi qu'ils pensent. Tu peux avoir un millionnaire qui est à Bombay aujourd'hui, qui sort de sa voiture de luxe et qui enjambe les slum dogs, children, enjambe des milliers, des milliers, des milliers d'enfants avec leurs plaies, leurs pustules qui vivent comme des animaux. Et lui ne sent absolument aucun sens de responsabilité parce que lui, dans sa pensée, si je suis riche et si haut aujourd'hui, c'est que je le mérite. C'est que c'est mon karma. J'ai été tellement noble et magnifique dans des vies passées que c'est ce que je mérite aujourd'hui. Puis si elle est là, dans sa merde et dans ses plaies et dans sa souffrance, étant abusée et étant violée, étant une jeune enfant prostituée, je peux pas l'aider. Parce que je ferai interférence avec son karma et elle a ce qu'elle mérite. Complète dichotomie entre son passé. C'est assez fascinant que des gens qui ont été si nobles dans leur passé, aujourd'hui, peuvent être si totalement égoïstes et cruels. Si vous regardez à différentes religions, si vous regardez à un islam radical, où des milliers et des milliers et des millions de jeunes hommes sur cette terre se donnent, se consacrent avec fanatisme à une vie sans communion humaine, une vie sans alcool, une vie d'abstinence, une vie sans communion humaine, sans relation, sans intimité humaine, parce qu'un jour, je vais être au ciel où je vais boire du vin éternellement et avoir 1000 vierges qui vont assouvir mes passions. Est-ce que vous me suivez? Lorsque j'étais en Israël, j'ai plusieurs fois eu des discussions passionnantes avec des rabbins. Il y a un certain fondamentalisme judaïsant qui ne veut pas pendant une seconde, ne peuvent pas pendant une seconde même écouter ou vouloir discuter une seconde de la possibilité que Christ soit le Messie, mais ils attendent un Messie pour le futur, un jour, plus tard. Mais lorsque tu leur parles, moi je dis, OK, vous attendez un Messie, oui, mais qu'est-ce qui va arriver lorsque le Messie va venir? On est en 2009, là, aujourd'hui, il se passe ceci sur la scène mondiale, vous êtes l'État d'Israël, voici votre premier ministre. Et j'ai parlé avec des rabbins, qu'est-ce qui va se passer? C'est hallucinant comment ils n'ont aucune... Qu'est-ce qui va se passer lorsque le Messie va arriver? Bien, il va nous libérer. Ah oui? Il va vous libérer de comment? De qui? Comme Moïse a libéré. De quoi? Comment allez-vous libérer politiquement? Est-ce que ça va être un politicien? C'est hallucinant comment le Messie est seulement une utopie future qui n'a aucun rapport avec maintenant. Et même, ne soyez pas juge et arrogant face aux grandes religions de ce monde. Il y a beaucoup de chrétiens ici sur cette terre. Il y a un certain fondamentalisme chrétien qui n'hésite pas à assassiner un homme, à y mettre une balle dans la tête parce que moi, je perçois que parce que c'est un médecin avorteur, il a tué un enfant, alors j'ai le droit de le tuer moi aussi. Complète dichotomie entre son ciel, entre les valeurs de Dieu et sa vie de tous les jours. Et tout un christianisme qui dit « Repentez-vous, la fin est proche ». Laissez-moi vous dire qu'au-delà de la fin qui est proche, une des raisons fondamentales pour lesquelles vous devriez vous repentir, ce qui veut dire changer de direction, c'est pas seulement parce que la fin est proche. Repentez-vous, le commencement d'une nouvelle vie est proche si tu te repens et tu peux goûter au royaume ici sur cette terre. Quelqu'un va dire oui. Dernière pensée du message. Lorsqu'on parle du royaume, il y a ces textes qui vont apparaître à l'écran dans Josué chapitre 20. La révélation est le cœur du refuge. C'est Dieu qui intervient dans les affaires des hommes. Suivez-moi bien, on va lire le texte dans un instant. Et qui dit, tu ne peux pas vivre sans moi. Tu as besoin de moi comme refuge. Tu ne peux pas te sauver. Tu ne peux pas échapper à ce qui te poursuit et ce qui veut te détruire. Alors moi, je vais devenir ton refuge. Ce ne sera pas seulement un refuge pour le ciel. Ça va être un refuge pour toi sur cette terre maintenant. Dans Josué chapitre 20, le peuple de Dieu était en guerre et évoluait. Il y avait déjà les villes, il y avait tout un système sociétaire qui était là. Mais l'être humain, le peuple du Seigneur par lui-même, n'avait rien à offrir aux coupables. Rien d'autre que la vengeance. Et Dieu intervient, Dieu s'impose, Dieu transcende et toute la dimension humaine. Il intervient dans Josué 20, il dit « Vous allez bâtir des villes de refuge ». Le texte apparaît dans Josué, chapitre 20. Et nous lisons versets 2 à 6. L'Éternel parla à Josué et dit au peuple, « Établissez pour vous des villes de refuge, comme je vous l'ai commandé. Lorsque quelqu'un aura commis une faute ou mis à mort involontairement ou par mégarde, il pourra s'enfuir et y trouver refuge contre le vengeur du sang. » Josué 20, 2 à 6. Le coupable sera recueilli par les anciens qui lui donneront un endroit pour résider avec eux. Et lorsque le vengeur du sang le poursuivra, ils ne le livreront pas entre ses mains. Il restera dans cette ville jusqu'à son jugement et la mort du souverain sacrificateur. Et alors il pourra retourner au lieu d'où il avait dû fuir. Regardez ici un instant. C'était la loi des hommes de l'époque, tout le concept du vengeur du sang. Lorsque quelqu'un avait mis à mort, et il y avait des provisions dans la loi pour celui qui avait fait des meurtres qu'on appellerait des meurtres prémédités, des meurtres de cruauté, des meurtres, mais il y avait des moments d'accident, des moments sans préméditation, des moments où quelque chose, quelqu'un est coupable, il est vraiment coupable, il a mis à mort. Et dans la pensée de l'époque, dans la nature humaine de l'époque, la seule chose qui pouvait assouvir le sang, c'était plus de sang. Et alors la famille se réunissait. Et si quelqu'un avait perdu la vie aux mains de quelqu'un d'autre, la famille se réunissait habituellement, c'était l'aîné, mais on prenait un des fils, et on disait, à partir de maintenant, tu vas être le vengeur du sang. Tu pars en mission, et tu ne peux pas revenir à la maison tant que tu n'as pas tué celui qui avait versé le sang. Il partait, et à partir de ce moment-là, le coupable savait que derrière lui, à chaque jour, il y a quelqu'un qui veut sa mort. Et c'était, si vous pouvez imaginer les émotions de chacun, celui qui partait, et certains historiens parlent, commentateurs bibliques parlent que c'était un peu même tristement, sombrement héroïque, mais il y avait des vengeurs du sang qui avaient été envoyés par leur famille, qui quittaient leur propre famille, qui étaient envoyés pour aller venger, pour aller mettre à mort, et qui passaient parfois, certains historiens qui parlent de vengeurs du sang qui étaient célèbres pour avoir été 20 ans, 30 ans à la poursuite de celui qui était pour tuer. Et lorsque finalement il réussissait à le trouver, il le mettait à mort, il devait revenir à la famille avec une preuve de la mort, il y avait une macabre célébration et on pouvait continuer. Et Dieu dit, tout ce que l'être humain peut faire, c'est lorsqu'il est coupable, lorsqu'il a été blessé, on lui a volé, lorsqu'on lui a enlevé, c'est de continuer à enlever. Lorsqu'il a souffert, il fait souffrir. Lorsqu'il tue, lorsqu'il a été tué, il a perdu la vie, il perpétue seulement. Et Dieu dit, voici ce que je vais faire. Et chaque chose dans l'Ancien Testament était annonciatrice du royaume de Dieu. Il dit, vous allez avoir des villes que vous allez bâtir. Ils l'ont fait. Ils ont bâti des villes partout à travers la nation. Vous allez bâtir des villes. Et dans ces endroits-là, celui qui est coupable va pouvoir venir. Et à l'instant où il va entrer dans la ville, la porte va se fermer derrière lui. Et à partir du moment où il entre dans la ville, les anciens s'occuperont de lui. Les anciens le nourriront et trouveront un endroit où loger. Il recevra un juste jugement et il pourra demeurer là. Et lorsque le vengeur du sang viendra cogner à la porte et viendra réclamer son sang, ils ne lui donneront pas, ils le protégeront, ils le garderont. Jusqu'au jour où le souverain sacrificateur, et lorsque le souverain sacrificateur mourait, c'était une période, c'était comme un amnistie. Lorsque le souverain sacrificateur mourait, les captifs étaient libérés. Le texte dit littéralement, il demeurera là dans la sécurité de la ville refuge. Et lorsque le souverain sacrificateur mourra, il pourra retourner à sa famille. Imaginez-vous un instant celui qui a mis à mort, celui qui a péché, qui a fait le mal, qui est coupable et qui le sait, et qui vit à chaque jour avec toujours au-dessus de son épaule le vengeur du sang qui veut l'arrêter. Ce n'est pas tellement dur à imaginer parce que nous sommes tous coupables. Et s'il y a 5 personnes et plus à tous les jours dans la province de Québec qui s'enlèvent la vie, c'est qu'ils sont plus capables de supporter cette vie parce que chacun d'entre nous avons mis des choses à mort. On a mis à mort des relations, on a mis à mort des vœux qu'on avait faits. On a mis à mort des résolutions qu'on avait faites devant Dieu. On a mis à mort des relations. On a mis à mort toutes sortes de choses. Chacun d'entre nous connaissons. Et cette province et ce monde est rempli de gens qui marchent à tous les jours avec un sentiment qu'il y a quelque chose qui les poursuit. Il y a quelque chose qui me poursuit et je ne suis pas capable de m'en sortir. Je ne suis pas capable de me sortir de mon passé. Je ne suis pas capable de secouer ma dépression. Je ne suis pas capable de me secouer de cette captivité secrète. Il y a quelque chose qui me poursuit. Il y a quelque chose qui va finir par m'avoir. Et je sais que je suis coupable, je sais que j'ai fait le mal, mais maintenant, il y a le vengeur du sang qui est à mes trousses. Et Dieu dit, je suis ton refuge. Tu peux entrer en moi et tu vas recevoir un jugement. Suivez-moi bien. Et le texte dit, ils recevront un juste jugement. Et Dieu dit à chaque personne ici, lorsque tu te présentes devant moi, voici ton jugement. Tu es coupable. Tu es coupable. Tu es coupable. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un homme, une femme ici qui va regarder Dieu dans les yeux et dire « Je ne le suis pas ». Mais le souverain sacrificateur, Jésus-Christ lui-même, dit « Je sais que tu es coupable et je vais maintenant aller mourir pour toi. Je vais moi-même mourir pour toi. Et non seulement je vais mourir, je vais ressusciter. Et à partir de ce moment-là, entre. » Imaginez-vous le sentiment de celui qui est pourchassé en tout temps. Il est pourchassé par le vengeur du sang. Chaque matin, chaque jour, il n'y a pas un moment de paix. Et il voit à l'horizon la porte. Il voit la porte de la ville refuge. Et lorsqu'avec ses dernières forces, il s'y rend, il a peur. Il ne sait pas ce qui va arriver. Il n'a pas toutes les réponses. Mais lorsque la porte s'ouvre et qu'il se jette de l'autre côté de la porte, il se tourne et voit son ennemi arriver. Mais la porte se ferme. Et Dieu dit, maintenant, tu es en sécurité. Maintenant, tu es dans le refuge. Maintenant, il ne peut pas réclamer ton âme. Quelqu'un devrait dire amen. Souverain sacrificateur dit, le refuge n'est pas seulement pour le ciel. Il est pour toi, ici, aujourd'hui. Et quel que soit ce qui te poursuivait jusqu'à cette minute, chrétien, ou tout nouveau, tu peux venir en Dieu. La semaine prochaine, nous allons regarder aux différents pièges de l'ennemi, comment obtenir le refuge, mais comment aussi le protéger. Mais nous allons aussi regarder sur comment nous en emparer. Mais laissez-moi, alors que les musiciens s'approchent, simplement terminer avec ce dernier passage dans la parole de Dieu qui est là, et ça va être la diapo 15. Dieu est mon refuge, celui qui habite, se repose, demeure et qui trouve en Dieu son refuge. Voici la clé, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même son refuge avec lui dans sa détresse. Puisqu'il s'attache à moi et qu'il m'invoque, je le ferai échapper et je le délivrerai. Bien-aimés, la ville du refuge est un des plus beaux portraits de l'Église que vous pouvez trouver dans les Écritures. J'espère que vous l'avez vu dans la description que j'ai faite. Mais la vision d'Église Nouvelle Vie, c'est d'être une ville refuge. Que des milliers de personnes qui se sentent poursuivies par des habitudes, par leur passé, par leur faute, par leur culpabilité, par leurs erreurs, par leur dépression, par leurs oppressions, par le désir qu'ils ne sont pas capables de réaliser, par des habitudes qui leur font du mal, mais qui ne peuvent pas secouer. Que des milliers qui se sentent toujours en regardant derrière eux, que je ne suis pas capable de m'en sortir, puissent arriver à chaque dimanche à la porte de cette église. Et alors que les portes s'ouvrent, ils vont trouver à l'intérieur pas des gens parfaits, mais des gens qui savent que eux aussi, nous aussi, nous étions coupables. Nous aussi, nous avions besoin d'un sacrificateur qui est mort pour nous. Et alors que la porte se ferme et que le passé et l'ennemi vient cogner et dire, je le réclame, je veux son sang à l'intérieur. Il y a le souverain sacrificateur qui dit, non, il est à l'abri maintenant. Il est à l'abri du Très-Haut. Il est à l'ombre du Tout-Puissant. Il a trouvé son refuge. Je vais le rebâtir jusqu'à ce qu'il puisse retourner à sa vie avec le refuge en lui. Quelqu'un devrait dire oui. Quelqu'un devrait applaudir une dernière fois le refuge de Dieu. Nous recevons beaucoup de témoignages pendant que les musiciens commencent doucement. Sébastien commence à jouer le nom du Seigneur tout doucement. Nous recevons beaucoup de témoignages ici à l'église. Et un récemment qui m'a touché. Là, dimanche de la fête des Pères, un monsieur qui était ici en avant, à la fin, il m'a demandé de me parler après quelques minutes. Après ça, je lui ai dit, pouvez-vous m'envoyer votre témoignage? Il me l'a envoyé en longue version. J'en ai une version plus courte. Il était là avec son épouse. Puis t'es là avec sa fille de 13 ans derrière lui, puis les trois étaient comme juste une grappe ensemble. Et tu voyais la maman et la fille qui venaient prier avec le papa, avec le père et l'époux. Les trois ensemble, t'avais un portrait de paix, un portrait de joie. Un portrait juste d'être unis ensemble. C'était tellement beau à voir. Je connaissais pas son histoire, et lorsqu'il me l'a raconté, ça m'a tellement touché. C'est un camionneur, c'est un trucker, comme on dit au Québec. Il m'a écrit cette lettre. Je vous écris cette lettre, Pasteur Claude. Avec ma femme et ma fille à côté de moi. Je l'ai reçu quelques jours après la fête des Pères. Hier, c'était la plus belle fête des Pères de ma vie. J'ai 51 ans. J'ai grandi dans l'alcool et les coups de pied et les coups de poing par la tête. Et ma vie n'a pas été drôle. Ma femme m'a enduré malgré tout le mal que j'ai fait parce qu'elle m'aimait. Je voulais changer, mais je n'étais pas capable. Je suis chauffeur de camion longue distance depuis 25 ans et je ne suis pas fier de tout ce que j'ai fait pendant mes longues années d'absence, année après année. Je ne dirai pas de détails ici, mais cet homme-là était coupable. Comme vous, comme moi. Il était coupable. Les habitudes étaient dans sa vie, des actions qu'il avait faites, des péchés, des choses qu'il avait faites. Il marchait à chaque jour en regardant au-dessus de son épaule et en sachant que toutes ses actions étaient pour le rattraper. Il disait, la seule chose que j'avais dans ma vie, c'était ma femme et ma fille. Et en 2006, je les ai perdues. C'était ma faute. Il témoigne très directement, il dit, j'ai fait tellement une grosse gaffe à ce moment-là que j'ai brisé le cœur de ma femme et j'ai tué le peu de confiance qu'elle avait encore en moi. Et je la comprends. Lorsque je suis revenu d'un voyage, la maison était vide. Tout seul, j'ai commencé à vouloir mourir. Mon frère me parlait souvent de Dieu et de nouvelle vie, mais je me foutais de lui. Là, je l'ai appelé. Il est venu me voir, nous avons parlé ensemble. Il m'a donné un paquet de CD de vos messages. Et j'ai commencé à les écouter sur la route dans mon camion. Il écrit « Montréal, Los Angeles, Montréal, Alabama, Montréal, Toronto, aller-retour avec un pasteur. » Il m'a raconté, puis écrit « Des fois, mes chums sur le CB me disaient « C'est quoi que tu écoutes là? » Parce que lorsqu'ils se parlent sur le CB, ils sont capables d'écouter ce qui se passe dans la cabine. « Qu'est-ce que tu écoutes là? » Je pleurais en vous écoutant et j'ai commencé à parler à Dieu dans mon camion. Il fallait bien que j'aille vous entendre en personne. J'arrive à l'église et vous parliez ce dimanche-là que Dieu peut nous redonner nos rêves pour nos familles. J'ai avancé en avant et j'ai commencé à prier pour ma femme et ma fille. C'était en janvier 2007. Pendant 3 mois, j'ai recommencé à fréquenter ma femme avec qui j'étais marié depuis 21 ans. À part qu'elle est venue à l'église avec moi et j'ai pris la décision d'arrêter complètement de boire. Je n'ai pas retouché à une goutte de boisson depuis avril 2007. Les pasteurs de l'église Nouvelle Vie m'ont aidé et ont aidé ma femme. Ça fait 2 ans qu'on est revenus ensemble et ma vie est tellement belle. On va se faire baptiser et ce dimanche de la fête des Pères avec ma femme et ma fille de 13 ans qui sont venues prier pour moi en avant. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Je pensais, écoutez bien ces mots à lui, je pensais que j'étais fini, que j'avais tout gâché. Mais Dieu n'avait pas fini avec moi. Et un jour à la fois, je vais marcher avec son aide et garder le trésor qu'il m'a donné. Si tu penses que tu es fini, si tu crois que tu es au bout, je veux te déclarer, si tu passes ta vie en regardant en dessous de ton épaule, je veux te déclarer qu'il y a un refuge. La porte s'ouvre, entre! Tu peux entrer ce matin! dans les bras de Dieu. Et la porte va se fermer derrière toi. Et Dieu va te rebâtir. Et Dieu va t'apprendre à marcher libre. Que ceux qui l'ont vécu applaudissent le refuge du Seigneur. Je demande à tout le monde de pencher la tête, de fermer les yeux. J'aimerais vous inviter à un moment de prière dans un instant. Un moment de prière ensemble. J'aimerais inviter des gens qui sont ici peut-être pour les premières fois. Des gens que, je vais le dire de cette façon, si vous êtes ici ce matin, et vous dites, Pasteur Claude, j'ai besoin du refuge. J'ai besoin du refuge. Il y a quelque chose qui court après moi. Il y a quelque chose qui est dans ma vie que je ne suis pas capable de vaincre. Je marche à chaque jour en essayant de m'en sortir, en essayant de fuir, en essayant de vaincre, en essayant d'échapper. Et je sais que je ne peux pas y arriver. Ce matin, si c'est vrai que Dieu ouvre la porte qui m'invite à entrer, je vais entrer dans le refuge ce matin. Je suis ici, il y a des gens qui sont ici. Vous êtes pourchassé par votre passé, vous êtes pourchassé par vos douleurs, pourchassé par des habitudes qui vous font du mal, par des erreurs que vous avez faites que vous ne pouvez pas reprendre. Vous êtes pourchassé par une culpabilité, pourchassé par des choses secrètes, pourchassé par des choses qui sont irréparables ou que vous croyez irréparables, pourchassé par un certain tourment, une certaine angoisse. Et ce matin, le Seigneur dit, viens, viens à moi. Viens à mon refuge, ouvre la porte, tu peux entrer. Je sais que tu es coupable, mais je suis mort pour toi. J'ai payé pour ta culpabilité et je suis ressuscité. Et si tu m'acceptes dans ta vie, tu vas trouver un refuge de pardon, un refuge qui efface le passé et un refuge dans lequel tu vas découvrir que je suis le Très-Haut. Je suis capable de t'élever au-dessus de cela. Je suis le El Shaddai, le Tout-Puissant. Et ma force en toi va être comme tu peux même pas l'imaginer. Et je suis ton refuge. Et je vais te rebâtir. Et personne ne va pouvoir te toucher. Personne ne va pouvoir t'atteindre. Parce que tu vas être à l'abri du Très-Haut. Des gens qui sont ici ce matin qui disent, j'ai besoin du refuge. Je veux venir au refuge. Dans un instant, nous allons chanter. Lorsque nous allons chanter, je vais vous inviter à sortir de vos places et à vous avancer ici à l'avant. Vous ne venez pas vous joindre à une religion ou à un mouvement, mais vous venez littéralement, vous courez vers la ville refuge. Vous vous approchez vers Dieu et les portes s'ouvrent. Et lorsque vous allez entrer, les portes vont se fermer derrière vous et Dieu va dire ici, dans mes bras, tu vas être bien. Tu vas être lavé, tu vas être pardonné. Les choses anciennes vont être effacées et toutes choses vont devenir nouvelles. Et je veux appeler aussi des gens qui sont ici, qui ont connu le refuge de Dieu, mais tu t'en es éloigné. Tu peux t'en être éloigné physiquement, littéralement, te quitter les églises. Ou tu peux t'en être éloigné dans tes pensées, dans ton cœur. Tu es assis à l'église, mais tu étais de plus en plus loin du refuge. Mais le Seigneur t'appelle ce matin. Le Seigneur t'appelle ce matin. Le Seigneur t'appelle, reviens à moi. Reviens à mon refuge. Pendant que cette prière apparaît à l'écran, Jésus fortifie nos cœurs. J'aimerais vous inviter tout le monde à vous lever avec moi en sa présence. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Jésus, fortifie mon cœur par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Jésus encore une fois. Et lorsqu'on va commencer à chanter, si vous êtes ici ce matin et vous dites, j'ai besoin du refuge. Marie et femmes qui vont se prendre par la main, des jeunes de tous les âges, j'ai besoin de venir au refuge ou j'ai besoin de revenir au refuge. Un refuge dans mes pensées, un refuge de paix dans mon cœur, un refuge de pardon. Je veux venir au Seigneur ou je veux revenir à lui à l'instant où on commence à chanter. Je vous invite à sortir de vos places. À la première réunion, des dizaines et dizaines de personnes se sont avancées. La porte est ouverte. Les bras de Dieu sont ouverts. Approchez-vous et lorsque vous allez arriver ici à l'avant, nous allons prier avec vous et le Seigneur va vous accueillir. S'il y a quelqu'un près de vous qui a besoin de s'avancer, dites-lui, si tu veux, j'y vais avec toi. Venez ce matin, le Seigneur vous appelle à son refuge. Car c'est en toi.
Oh, car c'est en toi.
Pendant que nous chantons, approchez-vous tout près. Venez. Venez.
Oh, oh.
Refuge, venez ce matin. Marie et femme qui se prennent par la main, on y va ensemble. Parlez à vos amis à côté de vous. Je vais y aller avec toi.
portes sont ouvertes. Les bras de Dieu sont ouverts. Le refuge est ouvert.
Tous les
peuples entendent le chant. Venez, 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 Dieu vous appelle. Venez. Le Seigneur vous appelle. Venez. Venez. Dans son nom, il y a guérison. Dans son nom, il y a consolation. Venez. Qui avance ce matin, on chante une dernière fois. Et pendant que nous chantons, toute l'Église, vous chantez comme une prière. Il y a des gens que vous êtes en hésitation en ce moment, en moment de décision. Ce moment ne reviendra pas, ne le gaspillez pas, ne le perdez pas. Venez, le Seigneur vous appelle à lui. On chante une dernière fois, on chante Jésus. Jésus, viens fortifier mon cœur. Et pendant qu'on chante, prenez votre courage et venez. La ville de refuge est ouverte. Les bras de Dieu sont ouverts. Venez, venez dans ses bras, Jésus.
Oh Jésus.
Venez ce matin, venez. Jeune homme, il y a des jeunes qui s'avancent ce matin, des jeunes hommes, des jeunes filles. Tu as besoin de trouver le refuge pour toi-même. Il y a une puissance dans le refuge pour accomplir ce que tu as dans ton cœur.
C'est en toi que nous
prions.
Viens nous.
Ce matin. Et nous allons, je vais vous conduire dans une prière. Je demande à toute l'Église de la prier avec vous. Il y en a qui reviennent à Dieu, il y en a qui connaissent Dieu, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont ici pour les premières fois ici à l'avant. Et je vais vous conduire dans une prière. Et toute l'Église va la prier avec vous pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce moment le plus important de votre vie. Vous avez trouvé le refuge. Et si vous vous approchez de lui, et si vous lui donnez votre vie ne sera plus jamais la même. Vous allez trouver dans le refuge ce que vous n'aurez trouvé à aucun autre endroit ailleurs. Venez-vous prier avec moi le refuge. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un mouvement, le refuge. C'est un Dieu vivant et c'est Jésus lui-même. Il tend ses bras vers toi. J'aimerais demander à toute l'Église de joindre vos voix à ces dizaines ou centaines qui se sont avancées alors que nous prions ensemble en disant, « Seigneur Jésus, je viens à toi. Tu es mon refuge. Je reviens à toi. Je m'étais éloigné de toi. Je te demande pardon pour toutes mes fautes et tous mes péchés. Je suis coupable, mais je mets ma foi en toi. Tu es mort pour moi et j'entre dans ton refuge. Libère-moi, console-moi, fais de moi une nouvelle personne. Que les choses anciennes soient passées et que toutes choses deviennent nouvelles. Apprends-moi à vivre dans ton refuge. Seigneur, maintenant que ton esprit vient témoigner à leur esprit qu'il y a un nouveau départ, qu'ils sont une nouvelle personne. Seigneur, qu'en toi, tu es leur Seigneur, leur sacrificateur. Tu es maintenant avec eux, tu vas marcher avec eux. Et Seigneur, mon Dieu, tu dis dans ta parole que lorsqu'il y a une seule personne, s'il y avait une seule personne qui avait répondu à cet appel ce matin, que lorsqu'une seule personne trouve son refuge en toi, un refuge pour sa vie sur la terre, mais aussi un refuge pour toute l'éternité, parce que ce matin, tu connais les noms de tous ceux qui se sont avancés et tu écris leurs noms dans un livre de vie que rien ni personne ne pourra effacer parce qu'écrit avec le sang de ton Fils. Et Seigneur, ce matin, tu dis que lorsqu'une seule personne vient à toi ou revient à toi, tout le ciel éclate en applaudissements et en ovations. Alors nous joignons nos réjouissances aux anges du ciel pour applaudir le plus grand de tous les miracles, des hommes et des femmes qui ont trouvé le refuge. Vous qui vous êtes avancés, quel que soit votre âge, Dieu est réel, Dieu est vivant, il peut être un refuge pour vous. Si vous êtes avec nous, vous êtes nouveau, vous êtes là pour les premières fois, prenez 2 minutes en sortant pour aller à l'espace. Bienvenue, il y a des gens qui sont là, on veut vous donner une Bible, on veut vous donner des choses, on veut parler avec vous, on veut vous connaître. Il y a des gens qui sont là pour vous aider à vivre dans le refuge. Bien-aimés, est-ce qu'on peut applaudir cette scène magnifique de tous ces gens qui trouvent leur refuge en Dieu? Que le Seigneur vous bénisse, nouvelle vie, marchez!
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.